paix. Il est 12h. Le journal de midi. Jean-Claude Mabéa.
Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Exploitation minière en Côte d'Ivoire, environ 530 milliards de francs CFA. C'est le montant de l'investissement du projet de la mine d'or de Tanda qui vient d'être découverte par un groupe minier avec une production d'environ 150 tonnes sur toute la durée du projet. On en saura un peu plus en début de ce journal. Dans cette édition, nous irons à Mans où les ex-combattants convertis désormais en acteurs de paix s'engagent pour des élections apaisées en 2025 dans le district autonome des montagnes. Au Mali, Doliba TV n'émet plus suite au retrait de sa licence mardi. Le président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, en abrégé UJPLA, Yao Noël, a dénoncé cette entrave à la liberté de la presse. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, nous évoquerons en fin d'édition, sinon nous parlerons des droits fonciers ruraux des femmes en Côte d'Ivoire en fin d'édition avec l'invité de la rédaction. Il s'agit du professeur Lamarche Aline Aka, maître de conférence agrégé en droit et titulaire de la chaire à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Elle sera interrogée par Paul-Bénédicte Bolou. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition par les audiences du président de la République. Environ 530 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement du projet de la mine d'or de Tanda qui vient d'être découverte par le groupe Endeavour Mining. L'information a été portée à la connaissance du chef de l'État Alassane Ouattara mardi par le président directeur général du groupe minier. Junior Cardin était au palais de la présidence de la République. Suivant son compte-rendu.
C'est tout souriant que le président de la République et ses invités ont reçu la presse pour une des rares fois dans la grande salle d'audience du Grand Palais après leur rencontre. Alassane Ouattara est le premier à prendre la parole.
Je reçois en ce moment le président du groupe Endeavour, un groupe minier qui est déjà installé en Côte d'Ivoire, notamment la mine Titi. Et là, il a une très bonne nouvelle à nous annoncer.
Puis, sans tarder, Yann Kokeril, le président directeur général du groupe Endeavour Mining, annonce la nouvelle en question.
Le groupe Endeavour va réaliser son quatrième investissement avec la mine de Tanda qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Donc c'est un projet de classe mondiale qui éventuellement va générer plus de 4000 emplois directs et indirects. Alors c'est un projet qui va produire sur toute la durée de la vie d'environ 150 tonnes d'or avec un investissement d'environ 530 milliards de francs CFA.
Avant ce groupe minier, le président de la République a reçu en audience Monseigneur Ignace Bessidogo, archevêque d'Abidjan, venu lui faire ses civilités suite à sa prise de possession canonique du siège, comme il l'a fait la veille à l'Assemblée nationale, non sans rappeler les grands chantiers de l'Église en cette période.
L'Église est au cœur du pays. Elle a un rôle à jouer dans la marche du pays. Et ce rôle passe d'abord par la prière, parce que c'est notre métier pour que le peuple se sente en harmonie, qu'il y ait la paix.
Monseigneur Ignace Bessidogo a dit être heureux de l'accueil qui lui a été réservé par le président de la République et qu'il a quitté très satisfait par ailleurs.
Voilà, ils se sont engagés à être des ambassadeurs de paix dans le district autonome des montagnes pour des élections apaisées en 2025. Eux, ce sont les ex-combattants des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Une rencontre a donc été organisée entre ces artisans de paix et le ministre gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flendé. C'était récemment à Mans et ils lui ont signifié qu'ils s'engagent désormais à être des hommes de paix. Les échos avec notre correspondant régional, Stéphane Adams.
L'élection de 2025 approche à grands pas. Les ex-combattants des crises antérieures, devenus aujourd'hui des ambassadeurs de paix, s'activent à garantir à une participation citoyenne et communautaire. Le président national de la dite structure explique leur démarche entreprise. Doté ou là.
Nous avons choisi ce moment pour pouvoir rencontrer le ministre et lui dire un peu ce que nous voulons faire pour le vivre ensemble dans le district des montagnes. À l'approche des élections, c'est pour sensibiliser nos amis mines des trois régions mener des actions de sensibilisation et surtout à rassurer le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, qui a été toujours à notre côté par le bien de son représentant pour dire qu'il peut compter sur nous.
Heureux de cette initiative, le ministre gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, donne cette assurance à ses nouveaux artisans de paix.
Je viens de recevoir en audience l'organisation des ex-combattants reconvertis depuis les années 2017-2018 en acteurs de la paix. Je leur ai donné l'assurance que l'ensemble des cadres de la région, nous allons les accompagner et nous allons faire en sorte que nos trois régions soient des régions de paix. À l'approche donc des échéances électorales, que la Côte d'Ivoire continue sur le chemin du développement. Avec le président Alassane Ouattara.
Notons que les fils et filles du district autonome des montagnes s'inscrivent progressivement à maintenir un climat de paix pour les échéances électorales à venir de 2025. Stéphane Adams, MAN, Radio de la Paix.
Quatre organisations de la société civile ivoirienne, à savoir l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, les Amazones du Web, l'Alliance des jeunes filles en action pour le bien-être et la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire ont lancé lundi une pétition pour la gratuité des certificats médicaux post-viol, dénonçant un coût de 50 000 francs CFA. Coût élevé comme obstacle à la justice. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Acte Femmes et du programme Prozan 2, soutenu respectivement par Affaires Mondiales Canada et l'Agence française de développement. Éléonore Kofi, la présidente des Amazones du Web, s'explique dans le contexte des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.
On a constaté que, en Côte d'Ivoire, on nous dit que on n'a pas besoin du certificat médical avant de porter plainte. En tant que survivant, on subit des violences, on peut se rendre dans un poste de police et porter plainte. Seulement que, lorsque l'affaire progresse et que ça arrive sur le juge, on nous demande d'avoir le certificat médical. Et donc, du moment où on a subi ces violences-là jusqu'à ce que ça arrive sur le juge, c'est difficile de retracer tous ces dommages qui ont été commis ou bien de retrouver toutes les traces qui prouve qu'on a subi des violences ou bien on a été violé. Et en même temps, parfois quand tu te rends dans des postes de police pour porter plainte, ils te demandent d'avoir un certificat médical avant de porter plainte. Et le certificat médical aujourd'hui est à 50 000 francs. Pour des femmes qui se trouvent dans notre région du Tchologo, dans des villages, c'est difficile pour elles déjà même de se déplacer pour venir en ville pour porter plainte. Et en plus de cela, on leur demande de payer 50 000 francs pour le certificat médical. Donc au vu de tout ça, on a décidé de faire ce plaidoyer pour la gratuité du certificat médical afin de permettre à toutes ces survivantes-là de pouvoir porter plainte et que des réparations de toutes ces violences-là.
C'était à l'instant Éléonore Kofi, la présidente des Amazones du Web. La tribune d'échange, l'invité des rédactions du quotidien étatique Fraternité Matin a reçu mardi à Abidjan le président du conseil d'administration de l'association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel, Lamine Sanogo. C'était l'occasion pour lui d'aborder plusieurs sujets liés à son secteur d'activité, notamment les enjeux actuels et futurs à travers le thème « La transformation locale du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, politique, défis et perspectives ». Suivons le compte-rendu de Linda Ballier.
Au-delà de démontrer les politiques mises en œuvre pour encourager la transformation locale, le PCA de l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel revient sur l'objectif de cette rencontre, Lamine Sanogo.
Ça pour montrer aux Ivoiriens que l'État qui a lancé sa volonté d'industrialiser, de transformer la matière première ivoirienne, est un projet auquel nous adhérons et nous prenons toute notre place. D'ailleurs, la première transformation aujourd'hui est un objectif atteint avec 2 millions des capacités de transformation annuelles contre une production autour de 1 800 000 tonnes.
Entendant prendre pleinement leur place dans les projets de deuxième transformation, les usiniers producteurs sont cependant confrontés à l'exportation frauduleuse des matières premières vers l'Asie qui entraîne des arrêts d'usines et la chute du prix aux planteurs. Lamine Sanogo.
Et donc, le premier défi, c'est éradiquer cette exportation frauduleuse. Et puis, le deuxième défi, c'est de matcher la production ivoirienne avec nos capacités installée. Que le régulateur comprenne qu'avec tous les investissements qui sont faits, il n'y a plus d'intérêt à continuer à délivrer des autorisations d'installation d'unités.
En termes de perspectives, les projets sont nombreux, notamment
créer un débouché pour l'industrie de transformation locale. Installer des unités de deuxième transformation, c'est créer un autre débouché pour notre production et ce qui nous rend plus autonomes vis-à-vis du marché extérieur.
Selon la mine Sanogo, la Thaïlande et la Malaisie seront bientôt en Côte d'Ivoire pour un projet d'utilisation du latex dans le bitume.
Dans le Bunkani, le PNUE, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, appuie l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves et la GIZ, la coopération allemande, dans un programme d'adaptation transformationnelle qui vise à intégrer les questions climatiques dans leur planification de projets dans l'espace périphérique du parc national de la Komoé pour renforcer la résilience des communautés riveraines face au climat changeant. Léon Crisois est coordonnateur de projet au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous l'écoutons au micro de Jérôme Kouassi.
Aujourd'hui, on ne peut plus douter de cela. Nous sortons bientôt de la COP29. Nous savons que le climat est changeant et les impacts sont notoires. Les populations commencent à ressentir les effets du changement climatique. Il faut donc aller vers une adaptation transformationnelle en prenant, depuis la planification, en compte effectivement les effets du changement climatique. Nous avons apporté un appui donc à l'OIPR qui gère donc cette réserve de la biosphère, qui est donc le parc national de Komoé, de telle sorte que dans le plan d'aménagement et de gestion qui va couvrir la période de 2025 à 2034, il faut qu'il y intègre les questions liées au changement climatique. En synergie avec la GIZ, nous avons aussi effectivement apporté un appui pour que dans les sous-préfectures, les PDL, ce que j'appelle le plan de développement local, puissent effectivement incorporer les éléments liés au changement climatique. Donc cette adaptation transformationnelle donc à la base va permettre dorénavant que la question du climat soit prise en compte dans la planification.
Vous venez d'écouter Léon Crisois, il est coordonnateur de projet au PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Promotion du patrimoine culturel. La Côte d'Ivoire accueille du 25 au 28 novembre plusieurs membres du Comité international pour l'éducation et l'action culturelle. La rencontre, placée sous le thème durabilité sociale et durabilité naturelle, a lieu au Musée des civilisations à Abidjan. Le but est de renforcer les capacités des professionnels en éducation muséale et ce en vue de concevoir des projets innovants et compétitifs au plan international. Ghislain Koulibaly nous en parle.
Cet atelier se tient sous forme d'échange.
Le public va être intéressé à notre projet.
Marguerite Delaraignée, membre du comité d'organisation pour l'éducation et l'action culturelle, nous partage ici son approche.
Mon intention, c'est peut-être mettre sur le chemin de la compréhension du jury, et parce que je crois qu'il y a une grande expertise dans les professionnels du musée. Et c'est un problème de comment on le montre, comment on le présente.
Et pour les participants comme Kabouré et Philippe, responsable Afrique du CECA, une telle approche doit permettre de redynamiser le réseau partout en Afrique.
Le CECA qui s'investit donc dans l'éducation muséale et l'action culturelle doit pouvoir étendre son réseau en Afrique aussi et permettre quand même d'apporter son expertise donc dans le sens donc du développement des musées.
C'est en tout cas une véritable opportunité pour la Côte d'Ivoire, nous fait savoir le président national, Dr. Ernest Tocman.
La Côte d'Ivoire, est, par le truchement du ministère de la Culture de la Francophonie, gagne vraiment en termes de formation, en termes de renforcement de son personnel.
Qu'est-ce qu'on veut ?
Une formation qui vient également rejoindre la dynamique du retour des biens culturels et patrimoniaux.
Je dois deviner vraiment quel est le but.
Actualité en République démocratique du Congo. Près d'un quart de la population, soit un peu plus de 25 millions de personnes, souffrent de la faim, dont 3 millions en situation d'urgence humanitaire. Pour répondre à cette crise, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estime avoir besoin de 330 millions de dollars. La directrice générale adjointe de l'organisation, Beth Bechdol, vient d'effectuer une tournée dans l'est du pays où elle a notamment rencontré des déplacés, nous apprend l'agence France Presse. Les entraves à l'exercice de la profession de journaliste semblent se multiplier dans les trois pays membres de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dernière situation en date, le retrait de licence adressé à la chaîne de télévision Djoliba TV au Mali. Une situation d'entrave à l'exercice de la profession de journaliste que vient de dénoncer dans un communiqué rendu public l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA. Écoutons à cet effet son président, Yao Noël.
L'UJPLA constate depuis quelques temps une sorte d'installation de l'international de la répression contre les journalistes dans les trois pays de l'AES. Finalement, on en vient à se demander si dans ces trois pays, les journalistes ne sont pas devenus la cible, si les journalistes ne sont pas en train de remplacer les terroristes qui font le malheur de ces trois pays. C'est à se demander si le combat de ces trois pays, de l'AES, est maintenant contre les journalistes ou contre les terroristes, combat pour lequel, du reste, les trois pays ont déclaré être intervenus sur la scène politique pour combattre, n'est-ce pas, les terroristes anturbanais et les djihadistes. L'UJPLA note avec regret que les journalistes sont devenus systématiquement la cible de ces trois régimes militaires. Et donc, pour l'UJPLA, qui défend la liberté de la presse, la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, cela n'est pas acceptable.
C'était à l'instant Yao Noël, le président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA. Nous arrivons à présent à l'invité de la rédaction et l'invité de ce jour est le professeur Lamarche Aline Aka, maître de conférence, agrégé en droit et titulaire de chaire à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle nous éclaire sur les droits fonciers ruraux des femmes en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion des assises nationales sur le foncier rural qui s'est tenu donc les 19 et 20 novembre à Abidjan. Professeur Lamarche Aline Aka a échangé à cette occasion avec Paul-Bénédicte Bolou sur les défis et les réalités auxquelles font face les femmes dans ce domaine. Entretien.
Professeur Lamarche Aline Aka, au sorti de ces assises, donnez-nous une vue d'ensemble sur la situation foncière en Côte d'Ivoire et son lien justement avec les questions de genre.
En Côte d'Ivoire, on a une situation foncière assez compliquée, parce qu'on a une forte pression foncière et ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau rural qu'au niveau urbain. Parallèlement à ça, et peut-être justement à cause de cette pression foncière extraordinaire, il y a une dynamique foncière aujourd'hui en matière textuelle, aussi bien en foncier rural qu'en foncier urbain. Donc, du coup, on a une pression foncière extraordinaire en Côte d'Ivoire, parce qu'avec toutes les activités agricoles, minières et tout ça qui créent une forte pression, eh ben, on a parallèlement à ça, ou en réponse à cela, une dynamique textuelle, c'est-à-dire au niveau des ministères en charge de l'agriculture, de l'urbanisation. On a effectivement une multitude de textes qui sortent et qui malheureusement ne sont pas forcément bien connus par les populations. Ces textes interviennent pour essayer d'améliorer la situation, mais comme ils sont nombreux, qu'ils sont mal connus, on va dire que pour le moment on est encore dans une situation de grand flou. Voilà, parce que ces textes sont très mal connus et donc n'arrivent pas encore à réguler la situation et on voit les conflits continuer de se multiplier devant les tribunaux, que ce soit aussi bien en matière de foncier rural qu'en matière de foncier urbain. Donc au jour d'aujourd'hui, la question foncière en Côte d'Ivoire est extrêmement sensible, pour ne pas dire explosive.
Quels sont les obstacles à la mise en œuvre de ces initiatives?
Bon, disons que par exemple, pour l'accès à la femme, la première difficulté, ce sont les logiques coutumières qui, pendant longtemps, ont cantonné la femme dans une situation de mise sous tutelle. Et donc, la femme qui est sous tutelle de son mari, de son père, de ses frères, et donc n'y peut pas accéder à la terre, comme on l'a dit, soit parce que au niveau de sa famille biologique, on lui reproche d'aller vivre après dans une autre famille, donc avec la famille de de son mari. Et parce que dans la famille de son mari, on lui dit qu'elle vient d'ailleurs. Et qu'en cas de divorce ou en cas de veuvage, elle retournera chez elle. Et donc, elle se trouve un peu prise comme ça entre deux feux et dans l'impossibilité d'obtenir une terre à elle. Donc, toute sa vie, elle travaille pour d'autres personnes, en fait.
En quoi une plus grande participation des femmes dans la gestion foncière peut-elle contribuer à une gouvernance plus inclusive?
Justement, déjà, elles donnent énormément d'elles-mêmes. Mais peut-être d'accéder à la terre. Déjà, c'est une reconnaissance de leur travail parce que, on le dit, tout ouvrier a droit à son salaire. Ne serait-ce que parce qu'elle travaille véritablement et donne de sa personne, elle est en droit d'obtenir les rétributions qui conviennent, qui correspondent à cette implication personnelle. Deuxièmement, parce que c'est une motivation. C'est une motivation. Ça lui donne envie de rendre encore plus. Voilà, c'est-à-dire, elle va s'investir encore plus dans le travail, elle va le faire encore mieux. Et troisièmement, c'est une contribution véritable, réelle à la vie de famille. Combien d'hommes, on le dit souvent, n'abandonnent pas leurs enfants ou ne se préoccupent pas de choses qu'ils considèrent prioritaires par rapport au bien-être de leurs enfants, mais au bien-être de leur famille. Mais combien de femmes, en revanche, laissent de côté leurs enfants pour aller faire autre chose? Ça, on le sait, ça c'est une réalité, ce sont des faits. Voilà, donc qu'on puisse reconnaître la propriété des terres à la femme, c'est en gros de reconnaître à l'enfant ce qui un jour lui sera dû, c'est-à-dire le produit du travail de ses parents. C'est vraiment une question de bonne gouvernance, vraiment pour moi, de la société qui justifie aujourd'hui qu'on donne à la femme cet accès-là à la propriété foncière.
Alors parlons de la stabilité sociale. Quel est le lien entre l'accès équitable au foncier et la construction d'une paix durable?
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous le remarquerez, la question foncière revient toujours dans les questions politiques. Qu'on le veuille ou pas, c'est intimement lié. Voilà, vous voyez, quand il y a eu des problèmes à l'époque, en 2000, quand il y a eu Marco VI, l'une des revendications, c'était quoi? C'était la terre. Quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous allez ailleurs, vous allez au niveau d'autres pays où vous avez du terrorisme, où vous avez du djihad et tout ça, vous allez voir que tous ces groupes-là commencent par faire quoi? Commencent par se chercher un espace, un territoire. Donc, le territoire, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est la politique. Donc, maîtriser la terre, c'est maîtriser le territoire, c'est maîtriser la population. Ça va ensemble.
Quel message clé souhaitez-vous transmettre aux auditeurs sur ce sujet?
Moi, je dirais que c'est un combat dont les femmes doivent se saisir elles-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de vouloir défendre quelqu'un qui ne veut pas être défendu. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement compliqué. Donc, si les femmes elles-mêmes elles ne se saisissent pas de ce combat-là. On aura beau faire des séances ici, on aura beau faire des conférences, on aura beau faire toutes les belles déclarations qu'on veut, la situation ne changera pas. Vous voyez, parfois, par exemple, on essaie de mettre en place des dynamiques. Et j'ai parlé tantôt du fait que, par exemple, dans les comités villageois de gestion foncière rurale, on impose la représentante des femmes. Mais vous allez dans certains endroits-là, elles ne veulent pas venir parce qu'elles ne veulent pas gêner, elles ne veulent pas mettre mal à l'aise les hommes parce qu'elles ne s'intéressent pas trop. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous faites comment? Donc, c'est un combat des femmes pour les femmes et ça doit se faire par les femmes.
Merci infiniment, professeur Lamar Chadinaka.
Je vous en prie.
Invité de la rédaction, professeur Lamar Chadinaka, maître de conférence et agrégé en droit et titulaire de chaire à l'université Alassane Ouattara de Boaké, répondait aux questions de Paul-Bénédicte Bolou. Cet entretien marque la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Exploitation minière en Côte d'Ivoire, environ 530 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement du projet de la mine d'or de Tanda qui vient d'être découverte par un groupe minier avec une production d'environ 150 tonnes sur toute la durée du projet. Amant, les ex-combattants convertis en acteurs de paix s'engagent pour des élections à peser en 2025 dans le district autonome des montagnes. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Radio de la Paix. Rendez-vous à 15h pour une nouvelle édition de l'actualité. Dans quelques instants, la revue de presse de Jean-Mélène Bitti. Bonne suite de programme à l'écoute de Radio de la Paix.
Bonjour à tous. Ouvrons.